Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'attentat de Bologne, le 2 août 1980, et une période funeste pour l'Italie, les années de plomb. En 1968, comme ailleurs, comme en France, une vague de contestation sociale déferle sur la botte. Mais bien vite, c'en est fini des manifestations étudiantes et des blocages d'usines. Le pays entre dans une spirale meurtrière, encore traumatique aujourd'hui. Enlèvements, attentats, assassinats, ce sont les terribles années de plomb. En tout, près de 12 000 attentats frappent l'Italie entre 1969 et 1987, provoquant la mort de 362 personnes et blessant 4 500 autres personnes. Les responsables, les activistes d'extrême gauche, bien sûr, mais surtout, et on le sait moins, des militants néo-fascistes. Parmi les massacres perpétrés par l'extrême droite, l'attentat de Bologne du 2 août 1980 est le plus violent de tous. Un attentat fasciste, mais aussi, dit-on, una strage di Stato, un massacre d'État. Car une partie du monde politique, mais aussi de l'armée et de la police, est mise en cause dans les attentats commis par l'extrême droite. Néofascisme et services secrets, attentats terroristes et guerre froide, retour donc sur l'attentat de Bologne et les connivences clandestines des années de plomb, une période encore brûlante, ambiguë, brumeuse. Notre invité aujourd'hui, Grégoire Lecanq, historien, spécialiste des années de plomb en Italie, il enseigne histoire contemporaine à l'université Lyon 2 d'ailleurs, il nous attend dans les studios de France Inter à Lyon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrer, réalisation Hélène Biziot.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Bologna la grassa, parce qu'on y mange bien. La Rossa, aussi à cause de ses bâtiments rougeoyants et pour son âme politique, communiste. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Bologne est un fief du PCI, le deuxième parti du pays, après la démocratie chrétienne au pouvoir. Ce matin du 2 août 1980, il fait déjà très chaud sous les arcades de la ville. À la gare Bologna Centrale, c'est l'heure des départs en vacances. Dans la salle d'attente de seconde classe, une petite pièce carrée, étouffante, des enfants jouent sur le sol en attendant le départ du train, tandis que leurs parents somnolent, lisent, fument. Bientôt, beaucoup se rafraîchiront sur la plage de Rimini, sur la côte adriatique, d'autres en Toscane, à l'ombre des cyprès. Le train Bâle Ancone s'apprête à partir. Il est 10h25. Mais soudain, une déflagration assourdissante. Le plafond de la salle d'attente se soulève dans un souffle puissant avant de s'écrouler avec fracas. Un mur porteur du bâtiment tombe lui aussi, emportant avec lui la toiture, le restaurant, les bureaux d'étage supérieur, le train du quai numéro 1. La gare de Bologne n'est plus que poussière. Une colonne de fumée noire et orange s'élève dans le ciel, comme pour signaler à la ville entière qu'un drame vient de se produire. Deux minutes après l'explosion, les sirènes hurlantes des premières ambulances brisent le silence de mort qui règne dans la gare. Taxis et bus municipaux sont réquisitionnés pour transporter les corps vers les hôpitaux de la ville. Pendant des heures, pompiers et volontaires vont fouiller les décombres, asphyxiés par les nuages de poussière qui s'élèvent dans cet enfer de feu et de débris. À chaque pelletée, un nouveau corps, sans vie, mutilé. En Italie et dans l'Europe entière, c'est le choc.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Une catastrophe inexpliquée en Italie, à la gare de Bologne, à la suite d'une explosion.
C'est ce matin, vers 10h30, que sur près de 150 mètres, toute l'aile droite de la gare de Bologne a été complètement ravagée. Poutres et blocs de pierre se sont écroulés sur les wagons en partance. Il y a d'abord eu un énorme bang, raconte un témoin, puis de la fumée et le silence. Et nous avons vu que toute une partie de la gare s'était effondrée. Une immense verrière s'est écrasée sur un train spécial qui partait pour Bâle. Le bilan provisoire s'élève donc à 55 morts et 180 blessés, dont plusieurs gravement atteints, selon la préfecture de Bologne. Pour l'instant, les causes de la catastrophe ne sont pas déterminées. L'hypothèse la plus plausible serait l'explosion d'une chaudière dans la salle d'attente des secondes classes. Plusieurs témoins auraient d'ailleurs ressenti une forte odeur de gaz avant la déflagration.
D'ailleurs, dans les heures qui suivent, la police et le gouvernement de Francesco Cossiga, relayés par la plupart des médias, soutiennent l'hypothèse de l'accident. En attendant que lumière soit faite, le pays entier pleure ses morts. Vacanciers, travailleurs, employés de gare, enfants, adultes. En tout, ce sont 84 personnes qui ont perdu la vie en gare de Bologne ce 2 août 1980 à 10h25. 200 blessés, 84 morts à cause d'une chaudière, un coup du sort funeste et une explication pratique en fait qui facilite la tâche du gouvernement italien et des services de police. Pas de coupable, pas d'enquête. Mais une découverte va rapidement venir démentir l'hypothèse officielle, les restes d'une bombe de 23 kilos. L'explosion de la gare de Bologne, ce n'est pas de la faute, pas de chance, mais c'est bien un attentat terroriste. Alors, qui a déposé la charge explosive dans la gare au milieu des voyageurs et des vacanciers? Qui a souhaité la mort de ces dizaines d'innocents, dont de nombreux enfants, et provoqué l'attentat le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la guerre? Rapidement, les enquêteurs tournent à droite, à l'extrême droite, pour être plus précis. Pascal Delannoy, l'envoyé spécial de France Inter à Bologne, raconte.
C'est un colonel des carabiniers qui a été chargé de l'enquête, et pas n'importe qui. Ce militaire avait reçu la même mission il y a 6 ans, jour pour jour, dans les heures qui avaient suivi l'attentat néofasciste contre l'Italicus, 12 morts. Le rapide Munich-Rome avait déraillé quelques minutes avant d'entrer en gare de Bologne. Aujourd'hui, avant de déterminer sans aucun doute possible que c'est encore l'extrême droite clandestine qui a frappé, ce sont des indices et des preuves en quelque sorte techniques qu'on tente de rassembler sur place. La bombe, entre 15 et 20 kilos, peut-être plus, a sans doute été placée dans une valise de plastique. C'est ce que confirme, dans la salle d'attente des deuxièmes classes, un cratère de 30 cm de profondeur et tout autour des traces noirâtres, le plastique qui a brûlé. L'examen des laboratoires permettra de fixer avec davantage de précision comment a été actionnée cette machine infernale. Et puis, il y a le témoignage d'un blessé, un employé des chemins de fer, qui a vu deux jeunes filles entrer dans cette salle d'attente avec un paquet et ressortir les mains vides. En fait, l'enquête commence à peine. On espère par exemple rapidement savoir si l'explosif provenait d'Italie ou bien de l'étranger.
Trois heures après l'attentat de Bologne, les carabiniers reçoivent un coup de téléphone anonyme. Un homme qui se revendique des NAR, les noyaux armés révolutionnaires, groupe paramilitaire et néofasciste, dit défendre l'honneur de Mario Tutti, un militant d'extrême droite jugé la veille pour avoir participé à l'attentat du train Italicus en 1974. L'attentat de Bologne serait-il une vengeance pour les proches de Mario Tutti? Possible. Mais quoi qu'il en soit, cet attentat n'est pas une première, loin s'en faut. Depuis 1969, des groupuscules semi-clandestins d'extrême droite multiplient les attentats à la bombe dans tout le pays. 1969, Piazza Fontana à Milan, 16 morts. 1973, Commissariat de Milan, 4 morts. 1974, Piazza della Loggia, Brescia, 8 morts. Août 1974, train Italicus, 12 morts. Modus operandi, des bombes dans l'espace public. Les victimes, indéterminées, tout le monde, n'importe où. Pour les activistes néofascistes qui commettent ces attentats, il s'agit donc de créer un climat de terreur qui favoriserait des mesures autoritaires, réactionnaires, un état d'urgence. En fait, déstabiliser pour stabiliser, et peut-être aussi décrédibiliser les gauchistes en laissant croire sur le terreau des contestations sociales de 1968 que les massacres à la bombe en sont la continuité logique. Tandis que l'extrême droite fait le choix du sang à partir de 1969, une partie de la gauche dite extra-parlementaire se divise elle aussi en groupes clandestins et militaires. Accusée à tort de l'attentat de la Piazza Fontana, l'extrême gauche théorise un terrorisme sélectif. Marianne Matarbonucci, spécialiste de l'Italie, l'explique à Patrice Gélinet.
Ces attentats d'extrême droite, ce sont en général des attentats aveugles dans des lieux publics avec des bombes qui feront, pour Bologne en 1980, 85 morts, hein, donc à chaque fois extrêmement meurtriers. La violence de l'extrême gauche est différente. L'extrême droite, il y a cette idée qu'il faut créer un climat de terreur, hein, véritablement, pour provoquer l'avènement au pouvoir d'un régime autoritaire. L'extrême gauche, c'est une violence, et je n'établis pas, comment dirais-je, de jugement de valeur, hein, mais elle est différente parce qu'elle se veut plus pédagogique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des cibles qui sont censées être l'expression, hein, d'ennemis, entre guillemets, dans la logique de cette extrême gauche révolutionnaire. Alors, qui sont les victimes? Par exemple, pour ce qui est des Brigades Rouges, au départ, des fascistes, hein, des militants néofascistes, des cadres d'entreprises qui sont présentés comme étant des collaborateurs avec le patronat, certains représentants du patronat, et puis, très rapidement, des magistrats, des policiers, des hommes politiques qui sont considérés comme étant précisément les agents, les représentants de cet État.
Entre les attentats aveugles des néo-fascistes, Bologne en tête, et le terrorisme ciblé des antifascistes, comme l'assassinat d'Aldo Moro en 1978, l'Italie a atteint un niveau de violence politique alors sans équivalent en Europe. Et nos violences, qui selon compte les morts, est davantage le fait de l'extrême droite fasciste. Oui, fasciste, car la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas éteint l'attachement de certains Italiens aux idées de Mussolini. Au sein même du Parlement, 30 députés appartiennent au MSI, le mouvement social italien, un parti conservateur et nationaliste, fondé en 1946 par d'anciens dignitaires de la République de Salo.
Avec près de 2 millions de voix, 30 députés et 13 sénateurs, l'extrême droite parlementaire a tout à fait pignon sur rue. Le MSI, autrement dit le mouvement social italien, rassemble aujourd'hui 5% des suffrages. C'est une moyenne, car dans plusieurs villes du sud, comme Naples par exemple, des pointes de 10 ou 12% ne sont pas rares. Quand on leur demande s'ils ont la nostalgie du fascisme, les responsables du MSI répondent que cette époque est bien morte, depuis plus de 35 ans. Ce que nous proposons, explique-t-il, ce sont des remèdes pour guérir les maladies de l'Italie. Les maladies de 1980. Rétablissement de la peine de mort, libéralisme économique, réglementation du droit de grève, voilà quelques-unes des mesures prônées par le très officiel MSI. Et puis il y a l'extrême droite clandestine qui n'a pas la patience d'attendre des succès électoraux. C'est elle qui, de 69 à 74, en développant la fameuse stratégie de l'attention, a rêvé de faire basculer l'Italie dans un régime autoritaire. Des attentats toujours très meurtriers et même une tentative de coup d'État en 70 ont marqué cette période.
Côté du MSI, le parti néofasciste officiel et parlementaire, cohabitent donc des petits groupes plus ou moins clandestins comme Ordine Nuovo, le mouvement révolutionnaire populaire, ou l'organisation paramilitaire Terza Posizione, qui veulent prendre le pouvoir par la force. En 1970, le chef de l'une de ces factions fascistes, le Front National Révolutionnaire, organise même un coup d'État. Valerio Borghese, qu'on appelle le Prince Noir, entreprend de s'emparer du ministère de l'Intérieur à Rome. Un échec qui prouve malgré tout la motivation des néofascistes italiens dans les années 70. 4 ans après ce coup d'État manqué, au lendemain de l'attentat du train Italicus, les autorités italiennes décident finalement de dissoudre ces groupuscules paramilitaires d'extrême droite. Pourtant, en 1980, ce sont encore des activistes néofascistes, on le sait, qui s'organisent pour déposer une bombe dans la gare de Bologne. Une organisation rendue possible, notamment par la disparition dès 1975 des services spéciaux en charge du terrorisme. L'État aurait fermé les yeux en laissant ces groupes se reformer. En 1970, des avocats et des journalistes communistes publient la Strage di Stato, le massacre d'État, une enquête inspirée des méthodes d'investigation américaines. Infiltration de groupes d'extrême droite, filature, recoupement collectif de l'info. Conclusion de l'enquête, l'attentat fasciste de Piazza Fontana en 1969, le premier de la période, aurait bénéficié de la complicité de certains hauts dirigeants au sein des services de renseignements italiens dans le cadre de ce que les journalistes appellent la stratégie de la tension. Car à l'époque, les services secrets emploient d'anciens cadres fascistes, recyclés dans les appareils de l'État après 1945 par le parti au pouvoir, la démocratie chrétienne. proche de l'OAS française, ses cadres militaires, aurait instrumentalisé le terrorisme d'extrême droite pour empêcher l'avancée électorale du Parti communiste italien, le deuxième parti du pays depuis la fin de la guerre, comme l'explique l'historien Marc Lazare sur France Culture.
Est-ce qu'il y avait encore dans l'appareil d'État, comme on dit à ce moment-là, beaucoup de personnalités qui revenaient du fascisme?
Oui, parce qu'il n'y a pas eu véritablement d'épuration en Italie. Il y a une continuité des administrations. C'est un des héritages du fascisme.
Comme en Espagne, d'ailleurs.
Franquisme. Exactement. Il y a eu, de ce point de vue-là, une continuité des administrations, des institutions, des hommes, et notamment dans ces secteurs stratégiques. Carabiniers armés. Et encore une fois, même quand on avait pensé, entre la période 45 et 48, écarter certains fascistes, on les a réintégrés. La démocratie chrétienne, et notamment le ministre de l'Intérieur, Mario Scelba, les a réintégrés parce que la priorité, c'était le combat contre le communisme.
À cause de la guerre froide.
Voilà, donc on prenait des gens, entre guillemets, d'expérience, qui étaient des gens qui avaient combattu le communisme et qui étaient fascistes. Donc oui, il y a encore une pénétration fasciste.
En 1980, au moment de l'attentat de Bologne, l'expression « stratégie de la tension » revient sur le terrain médiatique. Et c'est à travers ce filtre que le pays va regarder le drame. Mais avant de remonter jusqu'à des hauts gradés, ces nostalgiques du fascisme intégré au cœur même de l'État italien, les enquêteurs vont s'attaquer à la base, aux petites mains.
L'Italie. Eh bien, l'Italie se prépare à faire des funérailles nationales aux 76 victimes de l'attentat de Bologne. Les obsèques commenceront à 17h. C'est le président de la République, Sandro Pertini, qui conduira le deuil dans la basilique San Petronio, messe de requiem célébrée par le cardinal Antonio Poma. Le chef du gouvernement italien, M. Cossiga, assistera au service funèbre avec plusieurs de ses ministres. Dans tout le pays, les drapeaux seront en berne, usines, magasins, bureaux et cinémas seront fermés. Quant à l'enquête policière, elle commence à progresser. Interpol recherche un suspect que plusieurs témoins ont vu dans la salle d'attente de la gare de Bologne le jour de l'attentat. Le jeune homme s'appelle Marco Affatigato, il a 26 ans, il aurait pris depuis la route de l'étranger, peut-être même de la France. Mais la mère du terroriste conteste cette version des faits. « Mon fils était à l'étranger le jour du drame de Bologne », dit-elle. « Je l'ai même eu au téléphone, mais évidemment, elle ne veut pas dire où il se trouve. »
Le rapport à l'extrême droite étant établi, reste à désigner le coupable. La première piste des enquêteurs italiens est donc française en ce mois d'août 1980. Quelques jours après l'attentat, un premier nom est cité par la police, Marco Affatigato. 24 ans, ce militant néofasciste, bien connu des services de police français et italiens, vit à Nice, où les milieux d'extrême droite sont très bien implantés. À ce premier suspect s'ajoute bientôt un certain Paul-Louis Durand, sur qui les journaux italiens s'attardent tout particulièrement. Jeune inspecteur des renseignements généraux français et membre de la FAN, la Fédération d'Action Nationale et Européenne, un groupuscule néo-nazi violent, Paul-Louis Durand a passé quelques jours à Bologne juste avant les attentats. Début août, il est entendu par la police italienne, puis démis de ses fonctions pour activité non conforme à la déontologie. La piste française s'avère rapidement caduque. Elle est donc abandonnée. Dans le flou, les enquêteurs reviennent au cœur du drame, à Bologne. Ils reprennent une piste abandonnée, celle du coup de fil reçu quelques heures après l'attentat qui attribuait l'action au NAR, les noyaux armés révolutionnaires, reformation de l'ex-Ordine Nuovo, dissous en 1974.
C'est peut-être un tournant dans l'enquête sur le massacre de la gare centrale de Bologne qui fit 84 morts le 2 août. 28 militants d'extrême droite ont été arrêtés au cours d'opérations qui se sont déroulées dans plusieurs villes d'Italie. François Casteran.
Il est peu probable que les enquêteurs tiennent les auteurs matériels de l'attentat, mais la police marque un point important. Deux personnages connus auraient été pris, Aldo Semerari, psychiatre expert auprès du tribunal de Rome, et Paolo Signorelli, ancien membre du mouvement social italien, le parti néofasciste, dont il avait été expulsé pour ses positions jugées trop dures. Les noms de ces deux personnages, considérés comme les théoriciens de la subversion fasciste, se trouvaient sans doute dans les dossiers du juge Mario Amato, assassiné au mois de juin, alors qu'il menait une enquête sur les milieux d'extrême droite. Il était parvenu à reconstruire la carte du néofascisme en Italie. Depuis 2 ans, les anciens membres d'Ordre Nouveau s'étaient retrouvés dans les NAR, les noyaux armés révolutionnaires, troisième position, ou le mouvement révolutionnaire populaire. Si à Bologne les enquêteurs sont satisfaits, ils se rendent compte aussi qu'il reste encore beaucoup à faire.
Au total, ce sont 28 mandats d'arrêt qui sont délivrés par le procureur de Bologne ce 28 août 1980. Mais la police reste prudente. Ces arrestations sont un point de départ de l'enquête, pas un point d'arrivée, explique-t-on en conférence de presse. Un simple point de départ, effectivement, celui d'une enquête sinueuse et d'une longue saga judiciaire qui se déploiera de façon tentaculaire tout au long de la décennie. Témoignages contradictoires, fausses pistes, indices falsifiés, les enquêteurs avancent et reculent, d'autant que les accusés semblent bénéficier de relais fort utiles. Roberto Fiore et Gabriele Adinolfi, deux militants de Terza Posizione, impliqués dans l'attentat de Bologne, sont informés de leur prochaine arrestation et ils fuient à l'étranger. Mais en 1981, la vérité commence à éclore. Au cours d'une enquête toute différente sur la faillite frauduleuse d'une banque suisse, une mystérieuse liste est mise au jour révélant l'existence de la loge maçonnique P2, acronyme de Propaganda 2. Le grand maître de cette loge, sauvage, non reconnu par la maçonnerie officielle, le financier Licio Gelli, est un militant fasciste de la première heure. Il combat comme volontaire auprès de Franco pendant la guerre civile espagnole, avant de revenir en Italie où il adhère, après la Seconde Guerre mondiale, au MSI, le parti néo-fasciste italien. Aux côtés de Licio Gelli, on trouve une partie du gratin italien, 3 ministres, une quarantaine de parlementaires, des généraux des armées, des membres des services secrets, des fonctionnaires de police, des industriels et des entrepreneurs, comme le jeune Silvio Berlusconi, mais oui. L'objectif des 1000 membres de Propaganda 2 est simple, empêcher le Parti communiste d'arriver au pouvoir. Une perspective plus qu'envisageable à la fin des années 70, quand la démocratie chrétienne s'apprête à signer le fameux compromis historique, une alliance qui aurait fait entrer le Parti communiste au gouvernement. Les enquêteurs font rapidement le lien entre la loge P2, sa volonté d'écraser le communisme, et l'attentat de Bologne. Licio Gelli, mais aussi 2 officiers du SISMI, les services secrets militaires, et l'homme d'affaires Francesco Piacenza, membre actif de la loge P2, sont accusés d'avoir usé de leur influence pour détourner l'enquête, et finalement, ils sont inculpés avec 20 autres accusés.
Un procès curieux qui s'annonce très long, l'acte d'accusation est excessivement brouillé, et on ne sait toujours pas, par exemple, qui a posé là où les bombes. Bref, contre les 20 inculpés, des terroristes d'extrême droite, des gangsters et d'anciens responsables des services secrets, il y a en fin de compte beaucoup plus d'indices que de preuves véritables. Pourtant, c'est un procès à bien des égards historiques, puisque c'est la première fois que seront jugés des terroristes néofascistes, partisans de la stratégie de la tension, c'est-à-dire des massacres aveugles pour déstabiliser le pays et amener l'armée au pouvoir. Et les responsables des services secrets jugés ce matin, et parmi eux le général Moussoumeci, auraient été les cerveaux de ce type d'opération. Mais à la barre, Il y aura néanmoins un grand absent, un certain Licio Gelli, grand maître de la loge maçonnique P2, en fuite depuis 3 ans. Or, grâce à Gelli, la P2, véritable centre de pouvoir occulte, avait gangréné les principaux rouages de l'État dans le but de favoriser l'avènement ici de ce régime autoritaire. Et en son absence, évidemment, le dossier d'accusation est des plus fragiles.
Ce 2 mars 1987, premier jour du procès de l'attentat de Bologne, pas de Licio Gelli donc. À la barre, parmi la vingtaine d'accusés, le général Pietro Musumeci et le colonel Giuseppe Belmonte, chef des services secrets italiens, l'homme d'affaires Francesco Pacienza, leader d'extrême droite, et le professeur Signorelli, le présumé idéologue de l'attentat. Valerio Fioravanti et Francesca Mambro, deux jeunes activistes d'extrême droite, sont quant à eux accusés d'avoir déposé la bombe dans la gare. Le couple, mari et femme, membres des NAR, les noyaux armés révolutionnaires, a d'abord milité au sein du parti néofasciste officiel, le MSI, avant de faire le choix de l'action violente. Ces Bonnie and Clyde du terrorisme italien se sont déjà fait connaître pour plusieurs assassinats. Parmi les accusés, on trouve aussi des hauts dirigeants, des hommes d'affaires, des professeurs. Les magistrats sont lucides. Bien qu'ils dénoncent les complicités de l'administration, le poids de la loge P2 dans cette affaire et les complots qui ont obstrué l'enquête, pas d'illusion, la vérité ne sortira pas nue de ce procès, qui laisse tout de même entrevoir des liens étroits entre certains membres des services de renseignement italiens, où les fascistes sont légions, et les organisations terroristes d'extrême droite. Sans qu'un véritable programme stratégique soit découvert, des connivences idéologiques ponctuelles semblent corroborer l'existence d'une stratégie de la tension. Au cœur même de l'État italien, des hauts fonctionnaires ont fermé les yeux, voire appuyé le terrorisme noir dans l'objectif de déstabiliser la démocratie. Mais les connivences, si elles existent, restent troubles. Et il faut attendre 1988, soit 8 ans après l'attentat, pour qu'un premier jugement soit rendu.
4 condamnations à la prison à vie pour le massacre terroriste le plus meurtrier de l'après-guerre. Le verdict est tombé ce matin à la 2e cour d'assises de Bologne. La bombe des activistes d'extrême droite avait soufflé la gare de Bologne le 2 août 1980. 85 morts, 200 blessés. L'apogée d'une campagne de déstabilisation de la démocratie italienne, déjà ébranlée par les brigades rouges. Très vite, l'enquête s'était orientée vers le terrorisme noir, déjà coupable de plusieurs attentats dans des trains, mais aussi vers de hauts responsables des services secrets lié à la fameuse loge P2 de Licio Gelli. Pourtant, ce matin, à Bologne, ce sont les troisièmes couteaux qui ont payé. Seuls Valerio Fioravanti, Francesca Mambro et Sergio Picciafuoco, tous trois présents sur les lieux, et Massimiliano Facchini, accusé d'avoir fourni l'explosif, ont écopé de la perpétuité. Les deux officiers supérieurs des services secrets, Musumeci et Belmonte, ne sont condamnés qu'à 7 ans de prison pour diffamation. Ils avaient tenté d'égarer les enquêteurs en accusant faussement d'obscurs militants d'extrême droite. Pour protéger qui ? On ne le saura sans doute jamais.
Les troisièmes couteaux, dit ce journaliste pour désigner les 4 condamnés à la perpétuité, ceux qui ont déposé la bombe et fourni l'explosif, c'est vrai. Les inspirateurs, eux, les têtes pensantes, sont acquittés ou condamnés à quelques petites années de prison. Une décision de justice annulée, cela dit, 2 ans plus tard, puis finalement confirmée en 1995 grâce à la détermination des familles victimes. Licio Gelli, grand maître de la loge P2, Francesco Piacenza et 2 officiers des services secrets, Pietro Musumeci et Giuseppe Belmonte, sont donc reconnus coupables. Ils ont entravé l'enquête et conduit la justice sur de fausses pistes. Pourquoi ? Pour subvertir les équilibres politiques constitutionnels et consolider les forces hostiles à la démocratie. Malgré ces condamnations qui corroborent la thèse d'une stratégie d'attention à l'œuvre pendant les années de plomb, des interrogations persistent. Non seulement le rôle des autorités reste trouble, mais d'autres acteurs d'échelle internationale entrent en jeu. Gladio, le glaive, un nom énigmatique, inquiétant, révélé en 1990, qui renvoie au début de la guerre froide. 1956, les États-Unis regardent alors avec terreur le parti communiste italien le plus important d'Europe de l'Ouest. Alors, pour prévenir la montée du communisme, ils installent un réseau secret rattaché à l'OTAN, le fameux Gladio, avec ses affiliés, ses affidés et ses gladiateurs. Carabinier, membre des services secrets anticommunistes attachés au régime de Mussolini, membre de la loge Propaganda 2 et P2, les gladiateurs sont basés en Sardaigne où ils reçoivent armes, renseignements et formations de la part des Américains. Leur objectif, défendre l'Italie en cas d'invasion soviétique et instaurer un régime autoritaire à la façon du coup d'état des colonels en Grèce, soutenu par la CIA pour empêcher la gauche, et le communisme en particulier, de prendre le pouvoir. Voilà, c'est ce réseau Gladio que Marianne Matarbonucci décrit sur France Inter.
En 1956, donc cela on le saura en effet après, des accords sont signés entre la CIA, enfin des accords sont passés entre la CIA et les services secrets italiens, et en particulier le général De Lorenzo, qui est le responsable de ces services secrets italiens, qui mettent en place cette structure Gladio, donc, qui est encore une fois destinée à préparer un coup d'État dans l'éventualité où la gauche s'emparerait du pouvoir. Et ce même De Lorenzo, en 1964, programme un coup d'État qui n'aura finalement pas lieu, qu'on appelle le plan Solo, qui prévoyait cette fois, en s'appuyant sur les carabiniers, aussi l'organisation d'une forme de coup d'État. Alors à chaque fois, il y a des listes qui sont établies de personnes à arrêter, enfin toute une stratégie donc autoritaire qui est définie.
Le chef militaire de Gladio, le général De Lorenzo, est proche de l'extrême droite la plus radicale, celle de Valerio Borghese, le prince noir, connu pour son coup d'état manqué en 1970. Mais De Lorenzo fréquente aussi le numéro 2 de la CIA en Italie, Mark Wyatt. Autant de collusions découvertes en 1990 qui suggèrent que les États-Unis, via la CIA et l'OTAN, ont pu entretenir des réseaux occultes, quitte à prendre consciemment le risque du terrorisme. Avec le procès de l'attentat de Bologne, c'est donc tout un réseau d'influence et d'intérêts qui est mis au jour. Extrême droite néofasciste italienne, services secrets américains et italiens, politiciens et hauts fonctionnaires semblent avoir multiplié les compromis et les collusions sans que ces liens n'aient jamais été véritablement éclaircis. Sans doute pas une stratégie de l'attention donc, mais des stratégies conjointes, indépendantes et interdépendantes et une multitude de protagonistes aux intérêts convergents. De manière générale, c'est toute la période des années de plomb qui reste encore aujourd'hui écrasée d'une lourde chape. Dans les faits, les condamnations de l'attentat de Bologne constituent une exception. Une grande partie des massacres et des attentats commis par l'extrême droite entre 1969 et 1974 demeurent impunis, sans vérité, sans coupable, sans justice. Non seulement des opérations de brouillage, des enquêtes ont été systématiquement menées par des individus isolés pour empêcher l'action de la magistrature, mais l'État et la justice elles-mêmes ne semblent pas toujours avoir joué leur rôle, du moins dans le cas des attentats néofascistes. Marianne Matarbonucci estime qu'il y a bien eu deux poids, deux mesures, une justice pour l'extrême-gauche et une autre pour l'extrême-droite.
En effet, dans le cas du terrorisme d'extrême gauche, il y a énormément de militants qui ont passé des années en prison, qui ont purgé leur peine, alors que pour la plupart de ces attentats d'extrême droite, on n'a simplement pas trouvé. Il y a eu des procès qui ont souvent été interminables. À l'issue de ces procès, il n'y a pas eu véritablement de responsabilités qui ont été établies. Quand elles l'ont été, ça a été sujet à polémique, comme c'est le cas pour le procès de Bologne. Donc il y a impunité d'un côté, pour ce qui est des attentats d'extrême droite, et en revanche, la justice a fait son œuvre, on peut le considérer, pour ce qui est de cette violence politique des extrêmes gauches.
Des décennies après les faits, l'attentat de Bologne reste un sujet polémique. En 2010, lors de la commémoration des 30 ans du drame, ni Silvio Berlusconi, ni aucun membre de son gouvernement ne se déplace à Bologne. Pourtant, le 2 août reste en Italie un jour de mémoire dédié aux victimes de tous les massacres terroristes survenus pendant les années de plomb. Sous les sifflets qui rappellent chaque année que le rôle de l'État italien reste trouble, encore aujourd'hui à l'image de ce qu'écrivait Pier Paolo Pasolini, qui un an avant sa mort, dans son roman Petrolio, relatant les liens entre les services secrets, l'État et la loge maçonnique P2, un livre qu'il faisait précéder de ces mots restés mythiques dans un édito du Corriere della Sera.
Io so, je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologne. Je sais les noms des personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont lancé une croisade anticommuniste, puis se sont reconstruits une virginité antifasciste. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouve derrière les tragiques jeunes gens qui se sont offerts comme tueurs et sicaires. Je sais tous ces noms et je sais tous les faits. Attentats contre les institutions et massacres dont ils se sont rendus coupables. Iyoso, je sais parce que je suis un intellectuel, un écrivain, qui met en relation des faits, même éloignés, qui rassemble les morceaux désorganisés et fragmentaires de toute une situation politique cohérente et qui rétablit la logique là où semble régner l'arbitraire, la folie et le mystère.
38 ans après l'attentat de la gare de Bologne, la vérité se fait encore désirer. Le procès historique a certes mis en cause des membres des services secrets italiens pour faux témoignages et obstruction de l'enquête, mais aujourd'hui, les coupables sont tous libres. Lucio Gelli, impliqué dans plusieurs autres scandales d'envergure en Italie, proche de Silvio Berlusconi, a fini sa vie dans sa villa toscane. Valerio Fioravanti et Francesca Mambro, condamnés à la perpétuité, ont bénéficié, eux, de remises de peine et ils sont libres depuis 2009. Mais alors que les années passent, des questions subsistent. Quel a été le rôle exact des services de renseignement italiens, non seulement dans l'attentat de Bologne, mais pendant toutes les années de plomb, et celui de la CIA? Et puis, la démocratie chrétienne a-t-elle réagi avec suffisamment de vigueur face au terrorisme d'extrême droite? Des questions qui restent donc sans réponse, nourrissant les théories parfois farfelues des uns et des autres. Des questions enfin que l'immobilité de l'horloge de la gare de Bologne rappelle chaque jour à la mémoire de tous les voyageurs. Car depuis ce 2 août 1980, les aiguilles se sont arrêtées et elles fixent pour l'éternité cette heure tragique, 10h25, cette minute funeste où 85 personnes ont perdu la vie.
Che non faccio mai l'attimo in cui mi sembra una fatica credere che finiremo per volerci. Dopotutto siamo solo due miraggi fatti a pezzi riparati troppe volte. Stiamo insieme per miracolo, diversi come gocce d'acqua in bilico sopra questa notte che sta passando, sopra tutto quello che abbiamo al mondo. Dentro questo cielo con poche stelle, sopra di te, sulla tua pelle, sulla tua ragione quando io mi sbaglio, sopra tutto il tempo che non ho mai perso, sopra tutto quello che sai di me, che voglio solo morire un po'. Siamo solo come carte dentro un gioco in cui si perde troppe volte. Siamo salvi per miracolo, perfetti come gocce d'acqua in un deserto. Sopra questa notte che sta passando, sopra tutto quello che abbiamo perso. Dentro questo cielo con poche stelle, sopra di te, sulla tua pelle, sulla tua bellezza quando io ti spoglio, sotto questo torbido mare immenso, sopra tutto quello che sai di me, che voglio solo morire un po'.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat de la gare de Bologne. Notre invité, Grégoire Le Cang, bonjour.
Buongiorno.
Buongiorno. Vous êtes à Lyon, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et vous êtes historien spécialiste, notamment des années de plomb. Vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université Lyon 2. Voilà. Dans les années 70, la France a eu Action Directe, l'Allemagne, la bande Abadère, les fractions Armée Rouge, tout le monde était à peu près servi. Mais en France, pour l'opinion en tout cas, les années de plomb, donc en Italie, c'est le terrorisme rouge. Ce sont les brigades rouges. Pourtant, le terrorisme noir, ce qu'on a essayé de démontrer à travers ce récit, a été tout aussi nuisible, tout aussi puissant et peut-être encore plus meurtrier. Pourquoi a-t-on ce réflexe année de plomb égale ultra-gauche, brigade rouge?
Ben, écoutez, c'est une vraie question, hein, en tout cas, puisque c'est aussi le cas pour l'Italie, finalement, puisque la mémoire de la stratégie de l'attention, ces massacres, n'est pas tout à fait équivalente à celle des attentats, par exemple, des brigades rouges. Et pourtant, c'est des attentats... Enfin, là, vous avez parlé de la gare de Bologne, c'est très spectaculaire. Ouais. Et c'est étonnant, un petit peu, qu'il y ait cette méconnaissance. Par exemple, simplement, quand on arrive à Bologne, aujourd'hui, bon, vous avez parlé de cette... horloge qui est figée à 10h25, oui. Mais d'ailleurs que la Société italienne des chemins de fer a voulu refaire repartir, hein, il y a une dizaine d'années, et que c'est un mouvement de contestation locale qui a fait pression pour qu'on l'arrête à nouveau en signe de mémoire, mais il n'y a pas de monument réel à Bologne, et on peut passer comme ça en ignorant totalement. Bon, évidemment, dans la salle d'attente, il y a une stèle, il y a aussi une brèche qu'on a conservée, qui est malgré tout assez impressionnante, mais très discrète. Hein. Et donc, bon, dans la mémoire, il y a un manque, un déficit, c'est vrai, vous avez raison, aussi en Italie.
Et c'est pourtant une ville de gauche, hein, Bologne. On rappelle Romano Prodi, qui était chef du gouvernement italien et président de la Commission de Bruxelles, et bolognais, le cinéaste Pasolini aussi. Une ville de gauche, avec une tradition de gauche. Et c'est une ville italienne, évidemment, comme beaucoup d'autres. Alors, peut-être que la réponse est dans ma question. Pourquoi l'extrême droite a-t-elle fait le choix de la lutte armée en Italie plus qu'ailleurs, héritage du fascisme, c'est ça?
Héritage du fascisme, et puis effectivement, menace du communisme, hein, parce que en fait, ce qu'on appelle la stratégie de l'attention, c'est un ensemble de manœuvres plus ou moins obscures encore aujourd'hui, c'est vrai, qui ont un objectif, celui de contrer l'avancée du Parti communiste, qui était le premier parti d'opposition, le plus grand parti communiste d'Occident, comme il se présente toujours. Et donc, voilà, les premières bombes, en tout cas, elles servent à... elles sont non revendiquées et elles servent à incriminer, en fait, hein, les groupes de la gauche révolutionnaire. Il y avait une peur aussi, hein, de la révolution. Quand on lit, par exemple, les rapports de préfets, qui sont en général des hommes... très conservateur et fortement anticommuniste, on voit cette peur de la révolution, hein, de la révolution prolétarienne. Je ne dis pas que ce sont les préfets qui ont posé les bombes, mais c'est vrai que dans les services de l'État, il y avait une certaine angoisse, sans vouloir généraliser.
Alors, face à des mouvements révolutionnaires, peut-être, mais face à ce parti communiste de M. Berlinguer, qui était un parti communiste qui n'était pas stalinien, en tout cas pas stalinisé, c'était un parti communiste moderne, ouvert, à visage humain.
Oui, alors c'est tout à fait vrai, hein, mais c'est justement une contradiction en fait qui n'en est pas une, puisque le fait que le Parti communiste apparaisse comme moderne, ou en tout cas se donne cette image-là, et qu'on ait l'impression qu'il est plus ou moins aux portes du pouvoir, par exemple de la part des Américains, hein, qui ont leur importance dans l'affaire, ça augmente aussi la dangerosité finalement, puisque il n'apparaît plus comme sectaire, donc il apparaît d'autant plus dangereux, peut-être.
Alors justement, parlons des Américains et de Gladio. Donc ça fait partie des thèses. Hein. Les Américains n'auraient pas supporté l'éventualité d'une participation des communistes au pouvoir et auraient vu peut-être d'un bon œil une Italie déstabilisée pour être finalement restabilisée entre les mains d'un pouvoir, on va dire, conservateur et autoritaire. Est-ce que ça tient, ça?
Alors écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais plusieurs publications, hein, récentes en Italie, en tout cas, tendent à minorer hein, ce schéma explicatif. Il n'y a pas un seul schéma qui permette d'expliquer tous ces attentats. Et d'une manière générale, on a tendance à surestimer peut-être cette cohérence des structures occultes, Gladio qui serait dirigé par le grande vecchio, comme on dit en Italie, le petit vieux qui tire les ficelles. Alors peut-être Licciogelli, peut-être un autre. En réalité, tout cela est beaucoup plus confus, hein. Et par exemple, même les étapes de la stratégie de l'attention, que vous avez rappelé, ces différentes bombes, elles n'ont pas tous la même logique, elles n'ont pas tous les mêmes, certaines sont revendiquées, d'autres non, voilà, et elles n'ont pas toutes les mêmes matrices. Ce qui est certain, hein, ça c'est vrai, c'est qu'il y a eu des collusions avec les services secrets, qui étaient fortement anticommunistes, mais qui sont partiellement prouvé, il y a quand même eu des condamnations, hein. Même Gelli, finalement, on a pu prouver qu'il avait essayé de contaminer les preuves de Bologne, mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi. Mmh. Et cette théorie du complot, hein, qui est un peu permanente quand on s'intéresse aux années de plomb, elle sort en fait, elle provient de cette recherche des commanditaires toujours.
C'est
Il est beaucoup plus facile évidemment de trouver qui a posé la bombe, hein, surtout même à l'époque, on a pu retrouver globalement hein, d'où venait la minuterie, ou même où a été achetée la serviette, mais il est beaucoup plus difficile évidemment de retrouver qui a inspiré, donner l'ordre, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de trace, ça ne sera pas à mon avis un filon de recherche. Dans les archives déclassifiées, on ne trouvera jamais ce genre de papier, de document.
On voit parfois l'expression concernant les années de plomb en Italie, guerre civile de basse intensité, alors ce serait comme une... Et il y a eu la guerre froide, qui n'était pas tout à fait une guerre, mais qui n'était pas la paix. Alors il y aurait une guerre civile qui ne serait pas tout à fait une guerre civile, mais qui serait loin d'être une paix civile. Donc guerre civile de basse intensité, vous avez vu cette expression, vous ?
Oui, c'est une expression qui a toute son histoire, mais en réalité, qu'est-ce que c'est une guerre civile de basse intensité ? C'est un oxymore. Hein, alors, on peut dire que c'est une métaphore,
oui.
Mais est-ce que ça décrit véritablement la conflictualité italienne ? Je ne pense pas. C'est, si vous voulez, une guerre civile, ça sous-entend quand même qu'il y a des fractions armées qui soit se battent entre elles, soit contestent ouvertement le pouvoir avec un certain niveau, qui n'est certainement pas celui des organisations clandestines, malgré leur importance italienne. Hein, ça reste quand même des mouvements extrêmement minoritaires. Et l'acte terroriste, il est tellement spectaculaire qu'il nous fait perdre de vue souvent cela, hein, qu'on est face quand même à une menace extrêmement minoritaire qui n'est absolument pas capable
de
déclencher une vraie guerre civile,
oui.
Ni de renverser un pays. Même l'assassinat d'Aldo Moro, ça n'a pas fait bouger d'un iota l'équilibre institutionnel italien.
Ça permet à la démocratie italienne, et la démocratie en général, de montrer sa force aussi.
Alors ça, c'est paradoxal, oui.
C'est paradoxal.
Mais la démocratie italienne a survécu, c'est vrai, même s'il y a eu des lois quand même qui ont restreint beaucoup les libertés publiques, hein, qui ont été contestées déjà à l'époque, comme le sont aujourd'hui les lois
antiterroristes.
De sécurité. Ouais. Oui.
Alors, les années de plomb, forcément ça, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais plombé plus ou moins l'Italie. Bah oui, quand un pays comme ça vit un tel traumatisme, on imagine que ça peut créer une crise morale, d'ailleurs on va y revenir. Je ne sais pas si ça a freiné le développement économique de l'Italie. Quels ont été finalement, alors au-delà de la crise politique morale sur laquelle on va revenir, est-ce qu'il y a eu d'autres préjudices pour l'Italie avec ces années de plomb ? Est-ce que ça lui a fait prendre du retard ?
Mais vous savez, en fait, les années de plomb, c'est... Bon, les historiens aiment bien désosser un peu ces expressions qu'on appelle des chrononymes, c'est-à-dire des
Ah, c'est des trucs de journalistes, quoi, dites-le, allez. Est-ce que vous pensez à ça?
Non, parce que, en fait, non, parce que ça a été aussi repris dans la littérature, dans l'histoire, dans les publications, hein, mais de nombreux historiens la critiquent quand même cette expression-là, ce chrononyme-là, parce que, en réalité, il uniformise toute une décennie qui a été aussi une décennie de progrès sociaux extraordinaire, de mobilisation, d'émancipation. Il y a eu le statut dei lavoratori, par exemple, en 70, qui a...
Statut du travailleur.
Voilà, le statut du travailleur.
Faut traduire quand même, parce que tous les auditeurs ne parlent pas italien, nous.
C'est vrai, j'oubliais. Qui a en tout cas apporté beaucoup qui a construit le droit du travail moderne italien. Enfin, il est menacé là-bas aussi, d'ailleurs, comme chez nous. Il y a eu le droit de divorcer en 70 aussi, le droit à l'avortement. Bon, on cite souvent aussi l'abolition des asiles psychiatriques en 78. Enfin bref, il y a eu tout un mouvement d'émancipation. Et par exemple, hein, on peut citer Henri De Luca, vous savez, l'écrivain, le romancier Henri De Luca. Qui dit non, ce sont des années, on devrait parler d'années de cuivre, parce que le cuivre, il conduit l'électricité, alors que le plomb, on en fait seulement des canalisations pour les toilettes.
Oui, effectivement, l'image est parlante. Alors, crise morale politique quand même. Quand les Italiens se sont aperçus à quel point certains des rouages de leur État, Stato quand même, hein, c'est pas rien, pouvaient être contaminés, soit par la mafia, soit par l'extrême droite. Il y a de quoi quand même être traumatisé et déclencher une crise politique morale, une crise morale.
Alors là, c'est vrai que les années 70 ont beaucoup encouragé la défiance envers l'État, les autorités. Vous avez parlé par exemple à Bologne du fait que les autorités, quand elles viennent, hein, c'était pas le cas de Berlusconi, sont sifflées aux commémorations des Stracci, c'est aussi le cas à Brescia, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, d'une impunité des responsables, qui est d'ailleurs véritable, même si certains ont été condamnés, il y a quand même pas mal d'opacité encore aujourd'hui. Bon, maintenant, vous savez, on parle souvent du complotisme aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut savoir garder un regard critique, bien sûr, hein, sur les explications qui se veulent alternatives comme ça, mais l'idée de la stratégie de l'attention, c'est-à-dire que l'État est mouillé d'une certaine manière, ou qu'une partie des services secrets ont apporté leur aide aux poseurs de bombes, c'est en fait à l'origine un complot, enfin c'est du complotisme en fait, hein, c'est-à-dire que c'est un petit livre qui est sorti en 1970, qui s'appelle donc Massacre d'État, Strage di Stato, qui a dit le premier, mais non, c'est pas les anarchistes qu'on a emprisonnés qui sont les responsables, c'est des néofascistes avec l'appui des services secrets. Et ça s'est révélé vrai. Pour une fois, ça s'est révélé, malheureusement.
Mais justement, la théorie du complot, ça devient compliqué au passage, hein, parce que si on élabore une thèse un peu compliquée, mais qui tient debout, on va nous dire tout de suite, oh là là, théorie du complot. Bah oui, là, vous en avez porté la preuve que parfois, ce qui apparaît comme la théorie du complot, bah, c'est juste une enquête, une investigation historique, quoi.
Oui, alors après, évidemment, il faut de la rigueur. Hein, et parce que quand on parle de ces années-là, de ces attentats, il y a une montagne de complotisme. Hein. En Italie, on parle de dietrologie, il y a ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui proposent des thèses complètement fantaisistes la plupart du temps. Hein. Là, par exemple, on a parlé de la piste palestinienne pour Bologne. C'est quelque chose. On peut remplir une bibliothèque quand même avec les ouvrages qui défendent ce genre de trucs. Mais ça n'a pas de fondement. Donc il faut poser la question d'ailleurs plus profondément. Hein. Les attentats souvent stimulent des théories du complot fantaisistes. Le 11 septembre, mais tous les attentats, hein, on peut regarder sur Internet. C'est vrai que ça interroge quand même. Et je pense que c'est une telle déstabilisation quelque part qu'on a besoin. Enfin, on peut être tenté, disons, de chercher un cadre globalisant qui vous expliquera qu'il y a un complot judéo-maçonnique. Voilà, c'est vrai que ça simplifie beaucoup de choses, hein, quand on se coule dans une explication globalisante comme ça, et après chaque détail peut avoir son importance. Par exemple, je vous donne juste un exemple de complotisme extraordinaire par rapport aux Brigades Rouges. Un jour, Mario Moretti, sur le lieu d'un attentat, donc pour revendiquer, trace des slogans sur les murs, et puis il trace l'étoile à 5 branches des Brigades Rouges, le logo des Brigades Rouges, et il se trompe, il fait 6 branches, il fait une étoile de David, et ils repartent. Bon, enfin, faut peut-être imaginer la situation de stress du moment, je sais pas. Mais voilà, ça a été pris, et aujourd'hui encore, dans certains journalistes, c'est pris comme un clin d'œil au Mossad. Voilà,
ça, je vais vous dire, la main d'Israël, pourquoi pas.
Mais ça ne veut rien dire, en fait.
Ça veut rien dire.
Voilà, on part dans des interprétations complètement déviantes. Quoi.
Bon, alors, tout de même, est-ce qu'il est encore trop tôt en Italie pour aborder, alors là je parle des Italiens, hein, pour aborder cette période dite des années de plomb avec sérénité? Faut-il attendre que certaines cicatrices se referment?
Mais non, il n'est certainement pas trop tôt. En tout cas, il y a beaucoup de travaux d'historiens maintenant qui existent, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a un gros travail, il y a la justice aussi, même si parfois c'était insatisfaisant, mais a fait beaucoup de travail. Et on peut connaître beaucoup dessus. D'autre part, pour la mémoire, il y a un travail aussi, hein, sur, depuis Napolitano en particulier, sur la réconciliation. Ça pose la question, hein, qui est d'ailleurs brûlante aujourd'hui aussi, de comment sortir d'un épisode de terrorisme. C'est vrai que c'est pas évident. Sur quel principe on peut reconstruire une paix civile. Et encore aujourd'hui, c'est contesté parce que c'est difficile d'arriver, c'est vrai, à un récit qui fasse consensus. Oui. C'est vrai.
Alors, est-ce que les Italiens ont avalé la couleuvre? Je pense notamment aux familles proches de victimes des Brigades Rouges. et des terroristes d'extrême gauche pour le coup, depuis l'affaire Battisti, et puis depuis la doctrine Mitterrand, l'amnistie, l'accueil d'anciens terroristes sur le territoire français. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que la pilule est passée, si j'ose dire? Aujourd'hui.
Alors là, non.
Hein, c'est, non ça, hein.
C'est certain que non. Ça, là aussi, c'est encore une affaire très sensible, une mémoire très sensible. Bon, l'affaire Battisti, là encore, on parlait de sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice de la part des victimes. Bon, il faut dire que Battisti, il n'entre pas dans le périmètre de la doctrine Mitterrand. Parce que la doctrine Mitterrand, elle a été formulée pendant la campagne présidentielle en 81, donc. Pour se donner un contenu, disons, humaniste, hein. Et ça recouvrait les anciens clandestins qui abandonnent la clandestinité et qui ne sont pas accusés de crimes de sang. Battisti, il a plusieurs homicides, hein, il a été reconnu coupable de plusieurs homicides. Donc maintenant, effectivement, est-ce que c'est vrai, pas vrai, ses soutiens en France déconstruisent les procès pour prouver que les procès ont été mal faits, qu'il est innocent, mais ça ressort de la justice italienne. Et donc, effectivement, quand il y a des protestations d'intellectuels français en faveur de Battisti, évidemment, ça ne peut être pris que comme une attaque contre la justice italienne, ce que c'est, effectivement. Hein. Mais en même temps, bon, vous savez que la ligne de défense, hein, principale de Battisti, c'est de dire qu'il a été attaqué sur la foi des repentis, c'est-à-dire des gens qui ont monnayé leur remise de peine, voire même leur libération, par leur collaboration avec la justice et par le fait qu'ils balancent leur ex-camarade. Donc effectivement, c'est pas forcément très... Ça, on n'aboutit pas forcément à une justice très proche de la vérité.
Bon, on n'a pas le temps de parler de l'actualité toute chaude concernant l'Italie. Ce sont les élections ce week-end qui vont être importantes. Évidemment, elles seront ici sur France Inter commentées, disséquées. Merci infiniment, Grégoire Lecanque.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de Bologne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. D'ailleurs, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. C'est la tradition, nous sommes jeudi. Rédaction et recherche documentaire, Gabriel Debray, Jean Bulot, Margot Pinel et Jeanne Maillard. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio et Fabrice Lègle. Demain, ce sera la fiction qui vous parlera des sectes sous le titre Le Culte. Vous allez entendre les quatre tops qui vous diront, ils vous disent que vous écoutez France Inter et qu'il est précisément 16h.